Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 d'Opson.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
C'est l'histoire donc, d'un bateau de pêche avec donc, le capitaine donc, et ses pêcheurs. Ils sont dans la tourmente, il y a beaucoup de vagues. Et puis à un moment, il y a tellement de vagues que le bateau coule, donc tout le monde se jette à l'eau. Et puis ils attendent patiemment que quelqu'un vienne les remarquer, mais ils attendent la nuit, donc, et à un moment, tout au fond, ils voient donc une lumière, donc ils avaient encore un pétard donc éclairant, donc ils font signe, et le bateau vient les chercher. Donc le capitaine monte à bord du paquebot, et voit le commandant, et lui dit, bah, écoutez, c'est formidable, vous avez réussi donc à nous sauver, je ne sais pas comment vous remercier. Et à ce moment-là, le commandant du bateau dit « Bienvenue sur le Titanic !»
Casino, tac au tac, loterie, turf, tiercé, Omar Sharif, chance, malchance, carte bleue, probabilité, comptez les cartes, baraka, virtuel, bitcoin, poker, MMORPG, Avatar, vie, application, bingo, no life, ikikomori, jackpot, nerd ou geek, isolement, dépersonnalisation, agressivité, violence, dépendance, PEGI, épilepsie, interactivité, insomnie, game over, e-sport, escar, crampe, tendinite, canal carpien, lâche la tablette, obésité, malnutrition, manette ou joystick, l'air d'un con parfois, carte à gratter, surendettement. Vous l'auriez pareil et vous auriez gagné. Nous misons ce mois-ci sur les addictions aux jeux, réels ou virtuels. D'après les internets mondiaux, jouer à des jeux de hasard et d'argent, c'est risquer de perdre de l'argent ou des biens personnels lorsque l'issue du jeu est régie par le hasard. Qu'est-ce que le jeu problématique ? Le jeu devient problématique quand il a des conséquences importantes sur différents aspects de votre vie. Conséquences sur vos activités professionnelles ou sur vos études, responsable de problèmes de santé mentale ou physique, en relation avec des difficultés financières, responsable de problèmes avec votre famille, vos amis. Qu'est-ce que la dépendance ? C'est un état qui se caractérise par le besoin impérieux de faire une activité ou de consommer une substance et par la nécessité d'en augmenter la fréquence ou la dose afin de maintenir l'effet et éviter l'état de manque. Sur notre ticket gagnant est apparu le nom du docteur Artus, addictologue et médecin coordinateur de l'ANPAA, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, qui vient avec son équipe. Madame Dassé, secrétaire, et Madame Touari, accompagnatrice sociale, pour nous en apprendre un peu plus qu'Internet.
A gagné aujourd'hui des lectures du test aléatoire du point de mots. Une recette assez grattée de la petite cuisine d'Ozone. Un narvalo de consolation, une minute de pôle virtuel, un micro-trottoir sous contrôle de notre issue maître toujours gagnant, une pochette de surprise musicale et une interview au tac au tac. Pour vous servir aujourd'hui, Cory, Stéphane, Yacouba, Rémi, Joseph, Jean-Rosé, Séméré, Sandrine, Béatrice et Vivien.
Il était soulagé à cette nouvelle. Monsieur Hill
a trop souffert dans son pays d'origine à cause de ses opinions politiques ou religieuses, je n'en sais rien. Après les emprisonnements et menaces de mort à répétition, M. Hill réussit à s'enfuir de son pays pour chercher le refuge ailleurs dans un autre État, plus précisément la France. C'est un soulagement pour M. Hill d'avoir reçu à partir de son pays et de la mort. Mais M. Hill entame une nouvelle vie où tout change d'un clin d'œil. Il a perdu ses amis, sa famille, où il n'a plus de nouvelles et il a perdu leur... où il a peur de leur sécurité. Dans un pays comme la France, M. Hill ne connaît personne. Il est tombé dans l'isolement, manque de repères. L'angoisse est devenue pour M. Hill la vie quotidienne. Il dort et se réveille dans l'angoisse. Il fait semblant d'éviter, mais vite rattrapé. Mais le pire reste à venir. Les démarches administratives. Oh, quelle galère. M. Hill commence à penser à son pays resté plus loin. Son travail, ses enfants laissés à l'abandon où il n'a plus de nouvelles. Et ses amis où il a envie de voir, mais contraint par les circonstances de la vie. Mais il a encore un autre problème où il doit faire face. Hormis le problème de la régularisation, le racisme, le régime même de sa propre communauté, vu qu'il n'a pas encore de papier. Personne n'ose le regarder. C'est toute la vie qui est sombrée. Que faire? Que deviendrai-je dans ce pays où je connais personne, où je n'ai plus de ressources ni de vrais amis capables de t'accepter comme tu es? Terrain de méfiance dans tous les niveaux. Personne n'a confiance à personne, surtout quand on est fraîchement arrivé dans cette nation. Mais il s'étonne aussi souvent dans la rue où il est habitué à saluer les gens, à discuter avec du monde, mais il se trouve que, à maintes reprises, il salue les gens comme son habitude, croyant être au pays, mais quelquefois, il y en a qui ne lui répond pas et ne le regarde même pas. Mais quel soulagement le jour où M. Hill reçoit un courrier l'annonçant son régularisation. M. Hill est soulagé d'être accepté comme citoyen au vu de tout le monde. Quel soulagement, quelle nouvelle. M. Hill doit tout faire pour apporter sa contribution au pays qu'il a accepté. Merci.
kid game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. And I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you.
Recevons aujourd'hui l'équipe de l'ANPAA avec Madame Thoiry, accompagnatrice sociale, Madame Dassé, secrétaire, et le docteur Artus, addictologue et médecin coordinateur. D'abord, bonjour à vous trois.
Bonjour.
Et je vais vous demander d'abord ce qu'est la ANPAA.
Oui, alors, la ANPAA, donc, et l'Association nationale de prévention en addictologie. Donc on est national et dans chaque département, en tout cas de France et outre-mer aussi, vous avez des centres comme les nôtres. Alors nous, on est l'ANPA 27, voilà, oui, et on est le centre de soins, donc le XAPA maintenant, le centre de soins et d'accompagnement.
De prévention
et d'accompagnement en addictologie. Voilà. Donc le XAPA 27, le centre de soins, et on a également donc, nos collègues qui travaillent sur le volet prévention, qui eux sont basés sur Sotteville, mais qui viennent aussi nous donner un petit coup de main quand il s'agit de faire de la prévention sur le département. D'accord. Voilà.
Et c'est toutes les addictions, d'une façon générale.
Alors voilà, oui, on a fait le choix d'être un XAPA généraliste pour la prise en charge de toutes les addictions. Donc addiction avec ou sans produit. Donc les addictions sans produit, addictions dites comportementalistes. Voilà, je crois que c'est le sujet.
D'accord.
Et les personnes de l'entourage aussi. Les personnes de l'entourage qu'on reçoit aussi.
Des personnes dépendantes.
De l'entourage.
Des personnes
voilà, dépendantes c'est ça.
D'accord.
Et si je comprends bien, je vois que vous êtes une équipe pluridisciplinaire. Quel est le rôle de chacun alors?
Alors, dans l'équipe, il y a
C'est une toute petite équipe. Hein. Donc on reçoit les personnes soit en individuel, soit en un certain nombre d'ateliers. Donc en individuel, il y a une psychologue. Enfin, nous avons la chance d'en avoir deux. Enfin, une et demie, en fait, sur le plan du temps. Une accompagnatrice sociale, un médecin dictologue. Et une secrétaire d'accueil, puisque c'est très important aussi l'accueil, de pouvoir répondre aux personnes au téléphone, de pouvoir donner des informations, etc. Par ailleurs, nous avons effectivement un directeur et aussi une secrétaire comptable qui nous aide aussi pour toutes les tâches administratives et la direction de l'association. Puis on a des collègues qui font aussi de la prévention. On a aussi des collègues de prévention qui vont accueillir des jeunes, notamment sur ce qu'on appelle les consultations jeunes. C'est dit consommateurs, mais même s'ils ne sont pas consommateurs, ça peut être aussi des jeunes qui ont des problèmes d'addiction en général. C'est une consultation qui est ouverte et sans rendez-vous le mercredi après-midi. Voilà. Et puis nous avons des groupes et on organise un certain nombre d'ateliers, un atelier cuisine. On fait aussi un travail d'équithérapie, donc assez limité dans le temps, dans le nombre de personnes, puisque ça, quand même, financièrement, c'est un peu compliqué, mais qui fonctionne assez bien. On a aussi un atelier déco, etc., etc. Enfin voilà, on a un certain nombre d'un atelier marche et tout ça. Voilà, un groupe.
D'accord. Alors, on va parler aujourd'hui surtout de l'addiction au jeu en général, mais est-ce qu'il y a des passerelles, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qu'on est addict au jeu par exemple, est-ce qu'il y en a plus de risques d'être addict à autre chose?
Oui, quand on a une addiction en général, on a plus de risques d'avoir d'autres addictions effectivement, et on peut aussi passer de l'un à l'autre, évidemment, pour des raisons qui font que l'addiction, elle vient aussi comme un... Elle vient comme un moyen d'échange et de contact avec les autres. La plupart des addictions se partagent. On boit un verre ensemble, on joue avec d'autres, etc., etc. Donc il y a quelque chose de l'ordre du partage avec d'autres, il est des nôtres, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de j'ai ce comportement-là aussi pour quelque part aller mieux, pour me sentir mieux ou pour me sentir bien tout court.
Voilà. Quels sont les mécanismes ou tout simplement connaissez-vous des jeux thérapeutiques?
Oui, bien sûr, le jeu, c'est le fait de jouer, ça existe dans toutes les civilisations, ça existe toujours. On jouait, c'est très important. Dans l'enfance, par exemple, le jeu est formateur. Le jeu permet de grandir, d'apprendre sans trop de risques, d'ailleurs, y compris les jeux vidéo, d'ailleurs, pour les jeunes, etc. Le jeu est constitutif de l'être humain, donc il fait partie de la société tout court. Hein.
Non, ma question était qu'il y a l'addict au jeu.
Oui.
Mais est-ce que, par rapport à ça, il y a des jeux thérapeutiques?
Bien sûr, bien sûr.
Qui peuvent aider à ce que l'on puisse quitter l'addiction?
Bien sûr. Nos collègues de prévention, elles utilisent un certain nombre de jeux pour pouvoir jouer et expliquer un certain nombre de choses. Donc, il y a là, pour le coup, on joue avec les jeunes ou avec les personnes avec lesquelles on travaille. On va utiliser des jeux pour ça. Donc, les jeux peuvent effectivement être thérapeutiques, bien sûr.
Alors que nous, on n'appelle pas jeu, mais en fait outils. Mais c'est vrai que c'est les outils qu'on utilise régulièrement avec aussi bien un public jeune, enfant, mais aussi avec les adultes dans le cadre des ateliers. Ça permet bien sûr de pouvoir parler d'addiction, parler de la dépendance. C'est beaucoup plus facile en fait d'y introduire un jeu. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on travaille aussi beaucoup en prévention, enfin que nos collègues font. Pour nous, c'est dans le cadre du soin, on n'utilise pas de jeu, mais c'est vrai que c'est pratique pour expliquer des choses. Donc effectivement, alors est-ce qu'il est thérapeutique? En tout cas, il permet la rencontre. Ou en tout cas, il permet d'expliquer certaines choses. Après, le jeu thérapeutique, c'est une autre question.
Il y a un certain nombre d'endroits où on utilise, par exemple, les jeux de rôle, par exemple, hein, pour apprendre comment se comporter, etc. Donc, dans le jeu de rôle, c'est intéressant parce que du coup, on est dans le jeu, on n'est pas dans le réel et on est dans l'apprentissage, quelque part. Le jeu, c'est vraiment une des sources à la fois de communication, d'échange avec les autres, mais aussi d'apprentissage. Donc c'est très intéressant aussi de l'utiliser, y compris que ce soit en groupe ou en individuel.
Et est-ce qu'il y a des publics plus, disons, plus sujets aux addictions que d'autres? Alors je ne sais pas si c'est par rapport...
Aux addictions en général, vous voulez dire?
Oui, ou les jeux en particulier.
On
imagine peut-être plus des jeunes.
Pour la plupart des addictions, de toute façon, par rapport aux personnes qui viennent nous voir pour des problèmes d'addiction, oui, en général, on avait à un moment donné, c'était 7 ans et à... 82 oui, ans, voilà.
Pas d'âge.
Donc, du coup, il n'y a pas d'âge. Alors, il y a plus de monde dans la fourchette, je dirais, des 20-40, quoi. C'est plutôt là où, effectivement, il y a plus de monde qui vient au niveau du soin, je veux dire. Hein, parce qu'il y a aussi ça. Il y a, quand je vous parle de 7, c'est que pour nous, Awa tout à l'heure disait, Madame Touari disait tout à l'heure que nous accueillons aussi les personnes de l'entourage. Nous, on parle des ayants proches parce que lorsqu'on vit auprès de quelqu'un qui est dépendant, c'est effectivement très douloureux, difficile. Et donc, pour nous, ces personnes sont accueillies de la même façon que si elles étaient dépendantes. Elles sont devenues dépendantes de l'addiction de l'autre, quelque part, d'accord ? Donc, du coup, pour, je parlais de 7 ans, bah, c'était un enfant. D'ailleurs, ils étaient, je crois, jumeaux, ils étaient deux. Leur papa avait des problèmes d'alcool. Et donc, on suivait les grands-parents qui venaient pour parler de leur fils et en disant que leur petit-fils était en douleur, que c'était difficile pour eux, etc. Parce qu'effectivement, et du coup, on a pu accompagner les enfants qui, effectivement, ça leur a fait beaucoup de bien aussi de se détacher de ça. Parce qu'on a toujours l'impression, quand on a dans son entourage quelqu'un qui a un problème d'addiction, qu'on est un peu responsable de ça et qu'on se doit d'eux. Alors que si on arrive à prendre un peu de recul par rapport à ça, la vie est quand même un peu moins douloureuse, quoi. Voilà.
Quelles sont les conséquences sociales de ces types d'addiction ?
Alors, pour le jeu, c'est assez particulier parce que c'est comme la plupart des addictions, c'est-à-dire que ça va prendre beaucoup de place dans la vie de la personne. Normalement, dans l'existence, on a un certain nombre de relations, un certain nombre d'activités qui sont multiples, vous voyez ce que je veux dire. Et d'un seul coup, l'activité addictive prend toute la place, toute l'attention, tous les moyens, toute l'énergie qu'on a. Donc, c'est un espèce d'envahissement de la vie de la personne par cette activité-là. Donc, lorsque le temps pris, l'argent consacré à cela devient très important et que ça réduit le temps qu'on passe avec les autres à avoir des activités, à faire partie d'un groupe, etc., à ce moment-là, ça devient problématique.
Alors, je vous propose maintenant d'écouter un extrait d'un micro-trottoir qu'on a réalisé dans les rues d'Évreux, où on a demandé pour vous qu'évoque l'addiction au jeu.
Et quelles sont les conséquences de cette addiction au jeu ?
Qu'on peut plus s'en passer et que ça devient au détriment de soi et des autres autour de nous, puisqu'on est tellement dépendant que la dépendance devient plus importante que son entourage et que
la fatigue.
La ruine.
Ouais. Ils peuvent perdre ou gagner qu'est-ce que je peux dire ? Ils sont peut-être possédés parce que peut-être c'est une maladie. S'ils ne jouent pas, c'est comme s'il lui manquait quelque chose.
Ou bien taré, j'en sais rien.
Ouais. Dans quel sens taré du coup ?
J'en sais rien. Déjà, la norme, quelqu'un de normal, c'est quoi ? C'est par rapport à quoi ? J'en sais rien, moi. Ça, c'est des grandes questions.
Un jour, je sais pas, il reste plusieurs trucs. Exemple, je sais pas, à cause du grattage du jeu, à cause des trucs tous les jours. Si les personnes voient calculer, même 1 euro tous les mois, il y a au moins des dizaines d'euros, il peut faire autre chose. Il peut, exemple, il peut payer le DF, son loyer et tout. Il risque pour l'expulsion aussi. Après, voilà. Et après, ça sera tout. C'est-à-dire que ça sera risqué même pour les personnes qui, en plus, qui ne travaillent pas. Pour les gens qui, exemple, pour moi, les gens qui touchent la RSA à 500 euros tous les mois, au moins ils dépensent 200 à 300 euros des jeux grattage. Ils iraient pour gagner une grosse somme d'argent, grand lot. Mais par contre, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est ça.
Bah, ils sont financiers, je pense. Hein.
Ouais.
Ça met les gens dans la mouise. Hein.
Ouais, c'est pas ça. Ouais.
Et quelles sont les conséquences de ces addictions aux jeux ?
Je sais pas, enfin on sort moins, on voit moins ses potes,
on n'a pas vraiment beaucoup de vie.
Ouais, pas de vie sociale quoi. Mais voilà, enfin après pour être addict au jeu, faut le vouloir.
Faut y aller quoi.
Ouais, voilà, faut y aller. Faut faire que ça de sa vie, je pense.
Et les jeux à gratter, les gens qui sont un peu.
Ah, les jeux à gratter, je trouve, ouais, c'est pire parce que, enfin après on va pas parler de la française des jeux et tout ça, etc. Mais ça. C'est une arnaque quoi, enfin ça. Ouais. Ouais, ouais.
Ça fait espérer à plein de gens un truc qu'ils n'auront jamais et ça rapporte un maximum de thunes à l'État.
Être entraîné dans un cercle vicieux, perdre son travail, sa famille, ses économies et voilà.
Alors je vais vous demander si vous avez des réactions à ce qu'on vient d'écouter.
Oui.
Oui.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé, on a beaucoup parlé de jeux, mais on n'a pas fait la distinction entre effectivement les jeux vidéo et jeux d'argent.
Oui.
Le XAPA en PA 27 est référent sur le département hein, pour prendre en charge les addictions aux jeux. Et parmi les personnes qui viennent nous voir au centre, on a effectivement beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour des jeux d'argent. Et ils arrivent à un moment où effectivement cette dépendance-là, elle a pris énormément de place dans leur vie, et notamment au niveau social. où ils sont endettés, un peu exactement les termes qui sont ont été employés là dans le micro-trottoir, c'est-à-dire bien sûr l'isolement, mais aussi perte de plein de choses, sa famille, les liens qui sont coupés et toutes ces choses qu'on peut pas régler avec un revenu si faible. On a parlé de RSA tout à l'heure, et si on regarde bien les personnes qui viennent nous voir, alors on n'a pas fait de statistiques très précises, mais c'est vrai que ce sont des personnes qui ont très peu de moyens et qui jouent justement quand ils arrivent, ils nous disent moi ce que je veux c'est tout simplement gagner pour pouvoir aider ma famille, pour avoir une vie meilleure, parce que je vois bien que c'est compliqué, que mon insertion dans la société, je suis arrivée au bout et du coup je fais confiance au hasard. Alors bien sûr l'idée c'est oui, c'est quoi ce hasard? Est-ce qu'on est plus fort que le hasard? C'est quoi? Est-ce que je peux le maîtriser, ce hasard? Ça, c'est une question, bien sûr, qu'ils vont aussi travailler avec la psychologue qui est aussi formée à cette question des jeux. Mais ça a vraiment des conséquences vraiment très importantes sur la vie sociale, et notamment des pertes. On a vu des sommes vraiment astronomiques, quoi, avec des gens à qui, bien évidemment, alors on parlait de on ne parle pas de la Française des Jeux, si, parlons-en de la Française des Jeux, bien
parlons-en.
Et l'idée, c'est ça, c'est qu'on fait, bien sûr, bien évidemment, miroiter aux gens qu'il y a ce lot. Alors, vous allez avoir dans chaque... il va y avoir dans chaque... bureau de débitant de tabac ou autres qui vendent des jeux à gratter avec une grande affiche. On vous met ici, on a gagné 100, 200 euros... Ce serait intéressant qu'on en mette combien on a perdu. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et on fait miroiter aux gens ça. Tout est bien sûr calculé. Et puis, toutes ces publicités qu'on passe à retour de bras avec des gens qui ont gagné des millions, une vie meilleure, un yacht sur une île et je ne sais où. Enfin, et ce rêve-là, ben oui, il donne envie. Enfin, et c'est celui-là qu'on va garder et on essaye, on tente. Et c'est malheureusement, bon, les pertes sont vraiment conséquentes. Et puis il y a une autre histoire, c'est que ces personnes qui sont bénéficiaires du RSA, qui sont bénéficiaires de minima sociaux, eh bien, on leur prête énormément d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont aller aussi, ils vont emprunter via des sociétés de crédit. On va bien sûr leur demander leurs revenus, mais ça passe quand même parce qu'on va demander des petites sommes, mais des petites sommes plus une petite somme, etc. Enfin, des petites sommes. Je m'entends, je veux dire, on va demander... et ils sont blindés de crédits. Et avec ces crédits-là, ils ne vont pas rembourser leurs dettes. Ils vont bien évidemment jouer pour pouvoir espérer gagner la somme qui va leur permettre, un, de rembourser leurs crédits, deux, de payer leur loyer, trois, de faire plaisir à leur famille. Enfin voilà, et tout ça, c'est enrobé dans du rêve qui finalement, qui est plus compliqué qu'il ne paraît.
Avec la crise qu'on a depuis 2008, est-ce que vous voyez, est-ce que ça empire les choses ou, au niveau des addictions, est-ce que vous voyez plus de monde ou...
À partir du moment où vous avez plus de difficultés sociales globalement, ouais. Effectivement, vous avez cette part de rêve qui et du coup, c'est intéressant aussi d'avoir une part de rêve. Alors après, comment on essaie de la réaliser, etc. Donc, pas oublier que ça sert à ça. Ça sert aussi à lutter contre la dépression parce que du coup, ça donne de l'espoir. Alors que quand on est déprimé, en général, on ne l'est pas très. Donc, du coup, c'est aussi thérapeutique quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si de temps en temps, ça bascule. Puis la deuxième notion sur... Je voulais juste revenir sur le micro-trottoir. Il y avait un moment donné où on disait que c'était une question de volonté. Hein. Il faut le vouloir. Pour devenir addict, il faut le vouloir. Non. Si c'était juste une question de volonté, les gens qu'on voit nous sont des gens qui ont une volonté normale. Hein. C'est pas des gens qui ont moins de volonté que les autres. Au contraire, d'ailleurs, il va leur falloir une volonté de fer pour arriver à sortir d'un truc qui est plus fort qu'eux, entre guillemets. C'est pas parce qu'ils sont pas forts, c'est parce que c'est plus fort que ça devient plus fort que soi. Ce qui est susceptible de devenir addictif, comme le jeu, un certain nombre de produits, etc., c'est parce que c'est plus fort que les gens. Et c'est d'autant plus fort qu'eux parce que c'est rentré à l'intérieur de leur cerveau et que leur cerveau réclame. D'accord ? Donc sortir de cette histoire de volonté, que c'était des gens qui seraient à part, etc. C'est vous et moi, ça peut arriver à n'importe qui. On voit aussi des gens, parce que Awa, vous parlez aussi de gens qui sont en grande difficulté sociale, etc. Mais on voit aussi des gens qui ont les moyens et qui ont effectivement perdu beaucoup, beaucoup. Parce qu'ils ont joué à la mesure de leurs moyens aussi. Hein. Donc on voit aussi des gens qui vont être ruinés du fait de ce jeu, même si c'est des gens qui par ailleurs ont un travail, etc. On a des gens qui ont aussi beaucoup perdu. Il faut aussi voir le fait que... Parmi les gens qu'on voit, nous, c'est les gens qui sont, qui ont attrapé enfin, cette addiction-là. Il y a une espèce de processus très particulier, qu'on ne va pas décrire ici, mais qui est très particulier, sur le fait que la plupart des gens qu'on voit, ils ont gagné. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont gagné. Et ils vont essayer, quasiment toutes les personnes qu'on a vues, ils ont à un moment donné gagné. Et c'est, ce gain-là est suffisant pour leur faire miroiter que peut-être ils pourraient gagner et gagner plus. Et donc, ils vont tenter, ils vont rejouer la somme qu'ils ont gagnée d'ailleurs, et ils vont perdre la même somme. D'ailleurs, ils viennent nous voir quand ils sont exactement à perdre la somme qu'ils avaient gagnée. En fait. Non seulement celle qu'ils avaient gagnée, mais la même chose en négatif. Et du coup, ce processus-là, il participe du fait que les gens, à un moment donné, gagnent. C'est-à-dire que ça leur fait du bien. Il faut aussi savoir ça. C'est-à-dire que quand les gens vont devoir vouloir arrêter ce processus, quel que soit le processus d'addiction, il va falloir aussi arrêter quelque chose qui leur faisait du bien, qui les soulageait et qui était quelque part un médicament, entre guillemets. Ça peut paraître bizarre que le jeu soit un médicament, mais si ça permet d'avoir de l'espoir quand je n'en ai plus du tout, de quel droit on se permettrait de reprocher à quelqu'un d'avoir essayé de trouver un brin d'espoir quelque part ?
Pardon, je voulais juste aussi revenir sur le fait du changement. Effectivement, on a au moment où on a mis les jeux en ligne, et notamment tout ce qui était casino, etc., en ligne, on a eu effectivement une demande beaucoup plus forte. Parce que du coup, ça devient, c'est quelque chose qui s'est démocratisé. Vous savez, oui. Parce que
on n'a même plus à sortir de chez soi.
Exactement, on ne sort plus de chez soi. Et les ambiances un peu feutrées du jeu, du poker, où c'était presque réservé à une élite, aujourd'hui, tout le monde peut y aller, et notamment en ligne. Donc on a même, non seulement on ne sort pas de chez soi, et en plus, on n'a pas besoin d'avoir un statut particulier pour rentrer dans ces pièces, dans ces salles un peu feutrées. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là aussi qu'on a vu quand même plus, on a eu plus de demandes sur cette question de l'addiction au jeu.
Quelles sont les thérapeutiques ? Y a-t-il des médicaments et probablement des cures ?
Vous voyez, déjà, quand on parle thérapeutique, on est déjà sur la personne qui vient nous voir pour essayer de l'accompagner, elle. Il ne faut pas oublier que les addictions, c'est aussi, ça n'est pas qu'un problème individuel et pathologique. C'est un problème de société. Les États, les différents États, ont à certains moments interdit les jeux, fermé les jeux, essayé de faire en sorte que les jeux n'existent pas. À d'autres moments, ils ont développé ça pour pouvoir avoir des caisses, pour avoir de l'argent dans leurs caisses. Et donc, il y a notamment dans le jeu un phénomène de société. Donc, lorsque nous travaillons avec les personnes, on participe du fait de montrer du doigt ceux qui sont devenus dépendants. Mais c'est un phénomène beaucoup plus global. Les produits prohibés, par exemple, sont... le fait qu'il y ait des produits prohibés, il n'est pas dit, par exemple, que ce soit plus efficace que ces produits soient, par exemple, en vente libre ou autre. Donc on voit bien que les statuts des produits, les statuts y compris de tout ce qui peut devenir addictif, participent aussi de la société globalement. Alors c'est vrai que d'un point de vue individuel, quand on est coincé par ça, c'est quand même pas mal de pouvoir rencontrer une équipe, de se sentir respecté, et pouvoir être aidé à sortir de ce processus, en gros pour se retrouver soi, parce que quelque part, ce processus-là fait que les gens se perdent quelque part. Et donc l'idée, c'est de les retrouver eux. Donc c'est pas de trouver une thérapeutique qui irait à tout le monde. C'est au fond, c'est cette personne-là qui va être le maître d'œuvre de sa thérapeutique. C'est quoi ce qui lui tient à cœur ? C'est quoi ses rêves de gosse ? Et peut-être que plutôt que de les avoir d'un point de vue, je dirais, illusoire, pour les avoir tout de suite et maintenant, peut-être on peut les bâtir autrement, peut-être on peut les transformer et les digérer soi. Vous voyez, c'est ça le travail. Donc effectivement, un certain nombre de médicaments peuvent aider, mais peuvent aider la personne dans ce qu'elle est elle, et pas par rapport au produit lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça l'histoire. D'accord ? C'est le respect de la personne qui est la première chose.
Alors, pour finir, je vais vous demander, justement, quelqu'un, comment on vous contacte ou... Comment justement une...
Alors, soit par téléphone, soit... Oui. Voilà. Après, le centre, c'est vrai qu'il est un petit peu caché, il n'est pas connu de tous. Ou sur Internet, il y a les adresses, il y a les mouvements, les associations d'entraide communiquent aussi beaucoup notre adresse du centre de soins. Donc, ou par mail ou par téléphone. Et donc, c'est sur rendez-vous individuel.
Et c'est plutôt la personne addict, si on peut dire, qui vous contacte ou
oui, qui fait la démarche. Oui, le plus souvent, c'est ça. Après, ça peut être l'entourage. Voilà, ça dépend de l'âge de la personne. Si c'est quelqu'un de jeune, c'est plus un éducateur. Voilà.
D'accord. Eh bien, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions sur le thème. Ben oui.
Pardon, je vous invite à repréciser qui nous avions autour des micros.
Oui, reprécisons. Donc, nous recevions aujourd'hui... l'équipe de l'ANPAA, Madame Thouari, accompagnatrice sociale, Madame Dassé, secrétaire, et le docteur Artus, addictologue et médecin coordinateur. Je vous remercie encore
d'avoir répondu à nos questions.
Como aquí la mabe o io, o con angayo. Écoutez Peter Gabriel et Papa Wemba interprétant Shadow. Et maintenant, nous faisons place à la petite cuisine de zone.
Ingrédients pour 4 personnes. 4 bananes, glace vanille, glace au chocolat et glace fraise. 20 centilitres de chantilly. 100 g de chocolat fondu. Préparation de la recette. Mettre une banane dans chaque plat, de préférence de la même forme. Placer ensuite 3 boules de glace, puis napper de chocolat. Ajouter quelques noisettes de chantilly. Il ne reste qu'à goûter. Waouh !
Béatrice a ramené son tablier pour cette recette. Elle est particulièrement élégante.
On commence par mettre une banane dans chaque plat.
Alors les bananes, il faut les... Ouais, alors, ouais. Et on les coupe sur la longueur pour que ce soit plus facile à déguster. Et d'ailleurs, il faut faire très attention parce que les bananes peuvent nous échapper des mains.
Donc là, on est en train de d'éplucher les bananes et de les couper en deux, histoire que toute l'équipe puisse avoir son petit banana split. C'est bien normal.
On met la glace vanille, glace au chocolat ou glace fraise.
D'abord, nous allons faire nous-mêmes la crème chantilly. Et pour cela, le petit sachet miracle du fixateur pour crème chantilly, pour ne pas citer de marque, que nous allons utiliser. On met un petit peu de sucre glace au fond de notre saladier. J'ai mis la crème fraîche 10 minutes au congélateur pour que la chantilly prenne bien. Et puis le fixateur pour crème chantilly, ça permet justement que la chantilly tienne un peu. On va essayer dans notre cuisine aux oignons.
Et maintenant, on va faire la crème chantilly à la manière aux oignons. D'abord, on met notre crème chantilly pour 10 personnes. On prend La crème, voilà.
J'ai pris la crème épaisse à 30%. Plus la crème est grasse, meilleur c'est. C'est bien connu.
Et après avoir déversé la crème épaisse dans le saladier.
Alors, nice. Le petit fixateur pour chantilly et on va essayer de commencer à battre.
Là, nous sommes en train de battre la crème, le saladier.
Ouais, peut-être nous obtenons une belle chantilly.
Allez. Donc, nous avons obtenu une très belle chantilly.
Il ne faut pas plus parce qu'après ça fait du beurre.
Ouais, ça fait du beurre.
C'est vrai que je me suis un peu. Hop, voilà. Alors. On passe à la glace.
Et après avoir obtenu une très belle chantilly, on passe maintenant à la glace.
Il y a une assiette où on n'en mettra pas du tout de vanille, parce que Sandrine n'aime pas la glace.
Elle ne mettra que chocolat, mais...
Mais comme il n'y en a pas, alors je ne sera rien du tout pour Sandrine. Alors, on a donc disposé une boule vanille, une boule chocolat et bien sûr une boule fraise. Et on dispose notre chantilly de manière élégante. Nous avons choisi un nappage chocolat adéquat, 100% gourmand. Et nous allons pouvoir bientôt nous régaler. N'est-ce pas?
Oui.
Alors, Yacouba, une première impression.
Là, c'est très beau, c'est très bon. Cabernet Sauvignon, c'est quelque chose de très, très bon. Et cette recette, je vous convie de la faire souvent chez vous à la maison, avec ce temps d'été là. Ça va vraiment vous rafraîchir avec ça.
Merci.
Et maintenant, un petit texte de Joseph sur le titre « Même pas peur ». La peur est une arme qui tue avant de se faire tuer. Elle nous entraîne à la mort avant la mort elle-même. Même pas peur. Mais si on a les moyens de s'en sortir, mais quand on n'a pas les moyens, comprenez ce que je voudrais dire. Ceux qui n'ont pas les moyens, qui vivent dans les zones à risque, où il y a la guerre, la dictature, la domination du plus grand, de pouvoir dictatorial, des luttes interethniques, régionales, ne peuvent pas dire même pas peur, parce qu'ils en vivent tous les jours dans la peur au ventre. J'en suis témoin et je sais ce que je dis. La peur détruit l'imagination. Décourage les initiatives, quel que soit le niveau. Tous les jours, il y a des hommes, femmes et enfants dans le monde, pour ne pas dire dans mon pays, le Congo, qui vivent dans la peur, et même ici en France, surtout quand on est étranger ou pas. Peur du lendemain, de manquer à manger et de mener une vie difficile. Même les plus riches aussi ne sont pas épargnés de la peur, même s'ils ont tout ce qu'il faut pour mieux vivre. Si de nos jours, il y a des guerres partout, à la télé, on voit que des massacres, morts d'hommes, surtout les innocents. Parce qu'il y a une catégorie de personnes vivant dans la peur. Peur de voir les industries chimiques s'effondrer, peur de, leur vente d'armes, peur de voir les industries chimiques s'effondrer, leur vente d'armes s'arrêter, peur de perdre leur chiffre d'affaires et entreprises qui se ferment. Pour les riches, pour ne pas dire les pays riches, ils ont peur de tout perdre et d'être entraînés dans le chaos. Mais les innocents qui sont tués dans le monde, poussés à fuir leur maison, ville, village, pays, et j'en passe, la peur est là tous les jours. On se réveille dans la peur et on dort dans la peur. Peur de parler de soi, de ses idées, peur d'emprisonnement, d'être assassiné. Peur de tout, dire même pas peur n'est qu'une illusion. Le temps me manque. C'était un petit texte de Joseph.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Il était une fois de trop, de plus ou moins, qu'on ne sait pas par rapport à un temps donné que nous estimerons une prochaine fois selon la position de la Lune, de Vénus, mais pas de Mercure car il y fait trop chaud. Le Narvalo est à présent marié à un troupeau d'Amazones naines et chauves de petite taille et de faible capillarité dirigé de main de maîtresse par l'Amazon Premium Fantomat Batave. De son côté, Yodend, sa fille, est à sa recherche, aidée par les extraterrestres Moulmou et Doudou.
Je savais bien que ce serait une riche idée, la Côte d'Ivoire d'Evreux, pour notre lune de miel collective et néanmoins intime.
Mon petit Pilou, qu'est-ce que c'est quoi donc la Côte d'Ivoire d'Evreux? Je croyais que c'était en Afrique, la Côte d'Ivoire.
Que nenni, nul point. Ils ont un joker Jean-Pierre. Appelons un ami culturisé, Maître Capludo.
Allô, t'as du shampoing et t'es chauve? Non mais allô quoi? Quelle est votre interrogation?
Salut Capludo, je ne te dérange guère outre mesure.
Non, j'attends le plombier en urgence, j'ai tout mon temps et plus d'argent, et plus d'argent.
Peux-tu nous en dire plus sur la Côte d'Ivoire d'Evreux?
Dans les années contemporaines actuelles mais pas à la mode, la grande et belle ville d'Evreux, citée pas jolie, t'es fleurie, après s'être dotée d'un port autonome de centre-ville, de haute mer et sous la pression des touristes et du richissime lobby maritime hébroïcien, a construit sa Côte d'Ivoire sur les ruines de l'hôpital pour établir une ligne de croisière Costa.
D'accord, mais c'est quoi la Côte d'Ivoire d'Evreux? Ça ressemble à quoi? Quel en est le climat?
Pour résumer, on peut dire que c'est comme la Côte d'Ivoire, mais à Evreux. Une cité côtière et cocotière à dimension humaine, responsable et durable.
D'accord, c'est bien plus clair. Et puis il est temps d'embarquer à bord du Love Boat Normandie 2 remis à flot.
Bienvenue à bord, mes petites dames et petits messieurs. C'est Bob Renard, votre gentil capitaine abandonné qui vous parle par l'intermédiaire d'un astucieux système sono-acoustico-tubuleux. La traversée durera 12 minutes. Installez-vous confortablement et attachez vos ceintures. En cas d'avarie, ce qui arrive une fois sur deux, un gilet de sauve-qui-peut est mis à la disposition d'une personne sur trois. Pour évacuer, des toboggans se déploieront automatiquement à la main. Vous pourrez alors regagner la rive à pied. Petite précision, avec chaque billet d'embarquement, vous avez droit à un ticket de tontine de Côte d'Ivoire d'Evreux.
Qu'est-ce que c'est quoi donc une tontine de Côte d'Ivoire d'Evreux?
Eh bien, usons d'un joker Jean-Pierre, appelons un ami culturisé, Maître Capludo.
Oui. Cher candidat, bonsoir, vous avez déjà noyé votre joker Capludo. Vous pouvez toujours appeler un ennemi, en l'espèce M. Poclerat.
Non, ça ira, merci. Le niveau de liton est déjà assez bas. On va se débrouiller.
C'est Bob Renard, votre gentil capitaine à abandonner, qui vous parle grâce à la réutilisabilisation du fameux dispositif vocotubulaire. La tontine de la Côte d'Ivoire d'Evreux, c'est tout simple. Tout le monde joue et à la fin, je gagne.
Non. À la fin, c'est toujours moi qui gagne. Comme gravé dans le gruyère du côté de Castelnaudary. Quand j'ai déposé le brevet de tous les jeux de hasard à résultat fixe.
Oh, tu me cherches, mon petit dégarni? Je suis pas un Lopez, moi. C'est ici et maintenant que ça se passe. J'ai pas besoin de YouTube ou du World Wide Web.
Des coups de poing, j'ai pas peur. Moi, j'ai pris des balles, des coups de fusil, des coups de couteau, j'ai pas peur. J'ai oublié de faire ça, là, parce qu'il y a une tapette qui veut se battre avec moi. On se donne rendez-vous!
Chez nous, les Amazones naines et chauves, il n'y a qu'un moyen de départager un différent entre titiniques. Le duel du capillomètre, celui qui a les cheveux qui poussent, croissent, grandissent ou s'allongissent le plus vite gagne.
Rendez-vous est pris dans la salle de réception géante du paquebot à haut plafond à vue de nez et à grande capacité de 20 personnes au sol, 375 en cas d'empilement intempestif et festif. Les chaises percées rituelles sont installées. Le narvalo et Bob Renard se mettent en position, la tête dans le trou et les pieds en l'air. Les duels les renversant comme une crème renversée ou une tarte tatin à l'endroit de l'envers, sens dessus, dessous et inversement. Assiste à la scène de façon clandestine pas légalisée, Yodend et ses amis, Doudur et Moulmou. Les extraterrestres complétisants qui s'en pensent, qui n'en pensent pas moins accrochés au bastingage, zingués derrière un hublot circulaire de forme carrée et de faible opacité.
Mon petit papounet, décapitularisé et magnifié, je ne te laisserai pas déposséder par un goupil de ton titre d'empereur de la triche.
On est avec toi, Doux. Démets-toi dur.
Ce que veut dire Doux dur mou, c'est un mou pour tous mou pour un mou.
Qu'est-ce à dire?
Nous allons conjuguer nos pouvoirs doux et le récapillariser du...
Abracadabra.
Sitôt la formule magique de conserve vociférée, un gigatif bleu vieille, dur, des dents et mou dehors, propre comme un dride, pousse au centre du crâne narvalesque, a priori de l'intérieur vers l'extérieur. On n'a jamais rien vu d'aussi ridicule depuis l'équipe de France de football. La victoire du Narvalo est écrabouillifiante. Mais attendez, que se passe-t-il?
Arrêtez tout, je m'appelle Arlelle Tombal Narvalo, épouse légitime du susnommé. Le mariage ne peut être valide.
Arlette, ciel, ma femme!
Personne ne s'y attendait à celle-là. Surpris de voir son épouse, le narvalo se pâme là. Les naines montent sur leur grand chevreau. Yodend et ses amis en tombent à l'eau. Mais d'où vient cette Arlette Tombal dont nous ignorions l'existence? Le narvalo serait-il un philosophe en action à chemise blanche, brushing et photogénie guerrière de bon aloi? Arlette Tombal est-elle une diva gothique sans limite? Cette série connaîtra-t-elle une nouvelle saison 2016-2017? Pour le savoir, rendez-vous le jeudi 29 septembre de 12h30 à 13h30, en espérant que d'ici là, Principe Actif ne soit pas racheté par Bolloré, Bouygues, Dassault ou Bernard Arnault.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Nous, on vous dit addiction au jeu, à quoi pensez-vous?
Addiction au joint?
Au jeu.
Ah, au jeu? Bah, ça me parle pas énormément, puisque c'est pas mon cas, c'est quand on est addict au jeu d'argent, quoi. C'est un peu comme toutes les addictions.
Escroquerie d'argent.
C'est n'importe quoi, parce que c'est dépensement d'argent pour rien. Pourtant, il y a le chômage, il y a des gens qui travaillent pas, il y a trop de chômage, le pays est dans la crise. Et il faut penser à ces gens-là avant que les gens qui prennent des jeux, qui grattent, qui font n'importe quoi. Et voilà, on a gagné. C'est pas évident parce qu'il y a des gens qui souffrent aussi, qui souffrent au niveau salaire, au niveau machin, au niveau la vie entre guillemets. Mais par contre, il y a des gens qui ils s'en foutent tous les jours dans les jeux grattage, des trucs. Pour moi personnellement, c'est pas une solution pour faire sortir, exemple, le pays de la crise. Et déjà, on est vraiment dans la crise. En plus que ça, vont toucher 49 terroirs au niveau de la loi et tout. Vraiment, on peut pas réagir plus que ça. Parce que si on continue comme ça, vraiment, c'est horrible. On peut pas sortir.
Ouais, bah, je sais pas, je pense au mec qui reste tout seul chez lui, les volets fermés devant sa console. Voilà.
Je pense à la drogue.
Oui. Pourquoi la drogue?
Bah, parce que pour moi, une dépendance, c'est comme une drogue, donc je pense à ça. Voilà.
Bah, c'est une drogue, hein. Ceux qui sont une addiction au jeu à gratter, c'est une drogue.
Ouais.
Je sais pas, moi. Déjà, j'ai jamais joué, donc je sais pas.
D'accord. Avez-vous déjà été l'heureuse gagnante d'un jeu?
Oh, des petits jeux. Des petits trucs de chance, c'est tout.
Je joue pas.
Je ne joue pas non plus.
Mais vous n'êtes pas heureux gagnant?
Du non. tout.
D'accord. Jamais de la vie, j'ai fait ça. Moi, je travaille, j'ai un CD, je travaille tranquille. Mais ça, c'est un piège pour moi.
Non, je prie même. Parce que depuis que je joue, j'ai jamais gagné.
Non.
Non, jamais?
Non, parce que j'ai jamais joué.
D'accord.
Je ne joue pas, moi. Ni au loto, ni au jeu, je joue à rien. Mais... Oui,
vous pouvez se mettre 100 euros.
Oui, peut-être 5 euros.
Le regagnant d'un jeu, absolument pas. Un jeu à gratter?
On n'a jamais participé, c'est loyer.
Un jeu à gratter ou un jeu industriel?
Non, non, pas vraiment, non. Ça n'a jamais été vraiment mon truc. Je joue quelques temps, enfin quelques fois, mais je suis pas à fond dedans, quoi.
Ouais, voilà, à part la tombola du collège à l'époque.
Si vous décrochez le jackpot, qu'en feriez-vous?
Je m'en vais au soleil.
Oui.
J'en donnerai à ma famille, puis après je m'en vais au soleil aussi. Voyager, faire plaisir à ma famille, et c'est tout. J'en donne une partie à tous mes proches et mes amis, aux associations qui me tiennent à cœur. Puis après, j'essaierai de garder pour toute ma vie, pouvoir voyager, faire tout ce que j'ai envie. Et puis voilà, m'acheter une petite maison, pas un gros truc.
Plein de projets alors.
Ouais, je pense que ça, j'y ai déjà pensé, ouais.
La première chose pour les handicapés, les gens qui ont besoin, qui dorment dans la rue, les gens qui souffrent. Nous sommes tout le monde comme le même, sur la même planète, il n'y a pas d'autre planète, on vit tout le monde sur la même planète. Pour moi, c'est ça. Si un jour je gagne, jamais j'ai gratté, jamais je joue des jeux comme ça. Mais si un jour je gagne en lot, première chose c'est pour les gens pauvres qui souffrent et une association pour les gens handicapés. Première chose.
Bah, un vrai travail. Je sais pas qui. Je sais pas, j'ai du mal à croire que. Mais bon, peut-être que ça peut. Que les gens peuvent gagner comme ça, par hasard, un jackpot, mais j'ai un peu du mal à croire qu'on puisse gagner comme ça.
J'ai un jour, vous
en que moi, de gagner, je joue pas, alors. Je joue à rien, alors.
Bonne question que tout le monde se pose. Je m'offre des vacances. J'arrête peut-être de travailler.
Je m'achète une île pour vivre à poil.
Mon père dit souvent que la peur n'évite pas le danger. Ben, en fait, si, c'est même fait pour ça, la peur. Et il y en a des qui annoncent la couleur. Quand un politicien ou un flic vous dit « n'ayez pas peur », ben moi j'ai peur. C'est comme un dentiste qui vous dit « ça va pas faire mal ». Ben moi j'ai peur de plein de trucs. Plein de trucs, mais pas les trucs habituels. J'ai pas peur des araignées, des serpents, des requins, ni même du requin, serpent, araignée. Moi j'ai pas peur non plus que l'Islande batte l'équipe de France à l'Euro. Non, en fait, ça je m'en fous. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'enfer de je sais plus qui. Vous savez, l'enfer, c'est les autres. C'est les relations humaines, l'amitié, l'amour, tous ces trucs-là. Moi, ça me fait peur. Ça me fait vachement très peur même, et de plus en plus. Alors, je vis comme un ours au fond de ma grotte. Bon, c'est pas vraiment une grotte, c'est un appart dans un HLM. J'ai beau me faire le plus discret possible, bah rien à faire. Il y a des voisins qui m'aiment bien. Et pourtant, c'est pas réciproque du tout. Dernier incident en date, et en cours même, une voisine qui me drague, moi. Le pire, c'est qu'elle est du genre intelligente, belle, drôle. Enfin bref, normalement, elle devrait même pas me calculer. Du coup, je me cache et j'ai peur. Mais elle m'a écrit une jolie lettre. Et en plus, elle écrit bien. Cette fois, je suis carrément effrayé. Alors, je me cache. Et puis finalement, il avait peut-être raison, mon père. La peur n'évite pas le danger.
Même pas peur. Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, j'ai entendu des bruits d'armes lourdes que j'avais jamais entendus. Cette nuit commençait le début d'une guerre dans mon pays. Et j'ai eu peur, très peur, car je ne connaissais pas la guerre. Peur d'être tué, peur d'être enrôlé de force par un des deux camps, peur de perdre un membre de ma famille. J'ai vécu avec cette peur pendant 8 ans de ma vie. En 2010, les politiciens de mon pays décident enfin d'aller aux élections. Je me disais, enfin, ce sera la fin. Mais mal de connaître ces politiciens véreux assoiffés du pouvoir. Avec leur armée et leurs combattants de chaque côté dans l'attente des résultats. Après délibération, il y avait 2 présidents dans mon pays et ils s'étaient déclaré la guerre. Et moi, j'étais fatigué de tout ça. J'en avais marre et j'avais plus peur. Même plus peur d'être tué. La guerre s'intensifiait et j'avais même pas peur. Je les voyais combattre, je les voyais faire des trucs horribles. J'avais même plus peur d'eux et ils ne me faisaient même pas peur.
Zone libre.
Ozone, une heure de liberté.
En conclusion, nous espérons que cette heure passée à notre compagnie vous aurez définitivement rendu addict à Ozone libre. Nous remercions encore l'équipe de la NPAA, Dr Artus, Madame Dossé et Madame Touari, pour leur réponse éclairante à nos interrogations sur le problématique de l'addiction au jeu. Nous remercions également toute l'équipe d'Ozone Libre, une équipe haute en couleur et en mots, ainsi que l'équipe des principes actifs, le grand chef JC, les charman Damien et les papouses Timothée. Prochaine émission à mode estivale, le jeudi 28 juillet, à 12h30 à 13h30, toujours sur Principe Actif. Si vous souhaitez nous réécouter, n'hésitez pas à rechercher nos podcasts sur principeactif.net. Il est à présent 13h30. En conséquence, nous sommes contraints de rendre l'antenne. Et oui, on ne fait pas ce qu'on veut. À bientôt.